littérature,
musique,
radio,
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 littérature,
radio,
littérature,
littérature,
radio, 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 flac, laissez couler l'art.
On continue maintenant avec l'exploration des arts avec Mallory et Lynn, interviewées par Adèle.
Alors bonjour les filles, vous êtes en première L au lycée de Seigne. Est-ce que vous pouvez présenter votre art et en quoi consiste la première histoire des arts?
Ça consiste à découvrir déjà l'art et comment l'exploiter en fait et comment exprimer. Justement, par exemple, quand on décrit une œuvre, pas juste la décrire sur ce qu'on voit, ou voilà, vraiment voir le fond des œuvres, par exemple.
Avoir un travail d'analyse.
Voilà, c'est ça, vraiment de l'analyse très poussée. Hein.
Ok. Et donc, du coup, sur cette filière-là, vous m'expliquez que vous aviez travaillé sur différents sujets, en tout cas, différents domaines artistiques.
Oui.
Est-ce que vous pouvez les présenter un petit peu, les différents sujets?
Au début de l'année, on a commencé par le cinéma. Donc les images, beaucoup le son, les films en noir et blanc. Après, on est passé à... Qu'est-ce qu'on a fait après?
On a fait le cirque.
Ouais.
Mais là, surtout en peinture.
Ouais. On a vu un spectacle aussi.
Oui, voilà. On voit plusieurs spectacles avec notre filière, en fait, à la Halle au Grand. Et après, on a aussi travaillé sur La Belle Époque. Donc là, sur un film aussi.
Le Casque d'Or.
Ouais. Et ensuite, sur l'architecture haussmannienne. Donc Paris et aussi la petite partie de Blois.
Et c'est ça, notre film.
Oui.
Et pour la FLAC, vous avez décidé de préparer quoi?
Un film.
Ok.
D'accord. Mais du coup, vous pouvez nous le présenter, ce film?
Oui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire comment vous avez réalisé votre travail?
C'était sur 2 jours, le lundi et le mardi. Le lundi, on a fait toutes les prises, en fait, on a tout filmé. Et le mardi, c'était le montage.
Et en fait, ça consiste à montrer, à faire une comparaison entre la partie haussmannienne de Paris et la toute petite partie haussmannienne de Blois.
D'accord. Okay. Et c'était donc un film à visée documentaire, peut-être plus que...
Oui.
En fait, il y a un personnage, mais c'est juste le fil conducteur pour nous promener dans la ville.
Il y a un scénario quand même.
Voilà.
D'accord. Donc là, l'objectif de film, c'était d'allier l'architecture, le cinéma, un peu les différents domaines artistiques que vous avez vus aussi au cours de l'année.
C'était surtout aussi pour montrer en fait et pour comparer avec Paris, et aussi ça permet aussi que les gens y voient en fait quand ils vont à Blois. On regarde pas forcément autour de nous et là on a vu justement et on a pu comparer.
D'accord, alors c'est intéressant, parce que je ne savais pas que l'architecture haussmannienne, alors pour peut-être la présenter aux auditeurs, typiquement c'est les Champs-Élysées par exemple, c'est ça, l'architecture haussmannienne?
Non, c'est le centre de Paris.
Ça va plutôt être les grands boulevards,
ouais,
par D'accord. exemple, donc, où tout est très parallèle, en ligne droite,
D'accord. les toits bleus.
Les toits, donc en zinc,
tout ouais,
ça. Et donc où est-ce qu'on retrouve ça à Blois?
Autour de Denis Papin.
Ouais, les escaliers, déjà, c'est de la même époque. Ensuite, la rue en face, où il y a Sephora, Marionneau, D'accord. tout ça.
Mais pas, ça s'arrête.
Mais ça s'arrête, parce qu'en fait, ça a été détruit.
D'accord. Donc c'est juste cette toute petite partie à Blois qui était bien plus étendue avant la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, mais ça a été bombardé. Donc.
D'accord.
Du coup, avec cette expérience, quel est le bilan que vous pouvez... en conclure, qu'est-ce que vous pouvez en tirer?
Déjà, on a vu comment ça se faisait un film. Et pour faire seulement 8 minutes de film, il nous a fallu 2 jours. Donc, j'imagine pas pour un plus long film. Et moi, personnellement, ça m'a fait voir ce qu'il y avait autour de moi. Donc, maintenant, j'observe plus qu'avant. Parce que je vois qu'en fait, on peut voir... Par exemple, c'est vrai que quand on observe bien, on dirait que c'est Paris. Enfin, on observe plus en fait une fois qu'on a travaillé sur ça et même sur l'histoire des arts en général. Ça nous apprend à observer en fait et à ressentir aussi.
Et puis on voit aussi comment est réalisé un film. C'est très dur et très long. Donc c'est pas juste filmé et puis il y a tout un montage derrière avec le son et tout. Ça, on a refait des prises plusieurs fois. C'était pas très simple.
D'accord. Par rapport au film, moi, ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être de vous. Vous avez travaillé comment sur le montage ? Est-ce que c'était un travail collectif, hein, individuel ? Vous avez travaillé. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur la façon de faire, peut-être ?
Oui. Notre film était divisé en plusieurs séquences. Et on était par groupe de deux, donc par exemple, il y en a deux qui faisaient la séquence 1, d'autres la séquence 2, ensuite 3 et 4. Et ensuite, on regardait le travail des unes et des autres pour dire si on avait quelque chose à modifier ou si tout allait.
D'accord. Et c'est un film ? Vous avez fait un film dans la classe ?
Non, c'est que les premières Elida.
Oui, mais du coup, c'est le travail des premières Elida, c'était de réaliser un seul film.
Oui.
D'accord.
Oui.
Et vous étiez combien pour le produire ?
7 plus Madame Lager et son fils.
D'accord, très bien. Autre chose, une autre question à poser éventuellement ?
Bah, peut-être, est-ce que vous êtes satisfait du résultat et pourquoi ?
On est très satisfaite parce que comme c'est beaucoup de boulot, en fait on était fiers de voir le résultat final et faut pas oublier surtout aussi que c'est super sympa à faire en fait. Le tournage surtout, c'est peut-être difficile parce qu'il faut prendre plusieurs vues, etc. Mais on rigole beaucoup en fait.
D'accord. Et toi de ton côté
En fait, c'est pas du tout les mêmes travaux. Par exemple, personnellement, je faisais la caméra. Donc c'est vrai qu'on. C'est une bonne expérience parce que ça. On commence à maîtriser et puis d'autres qui faisaient le son et puis. On était très. Chacun avait un peu son travail, donc c'était une bonne entente.
D'accord.
Oui. Bah, eh bien, tant mieux. Merci les filles, merci d'être venues, et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Avant qu'on se quitte, peut-être juste nous dire, ce film-là, il a été diffusé cette semaine au lycée ?
Oui, mardi de 17h à 18h,
d'accord. En E23.
Et les retours des spectateurs sur le film ?
Bah, il n'y avait pas grand monde en fait.
Ah mince. Et est-ce qu'on aura l'occasion de le revoir à un autre moment ou est-ce que
oui, oui c'est possible parce
c'est
que
possible.
Peut-être qu'il sera diffusé en
boucle à la MDL.
D'accord, ok.
Et il sera aussi sous clé USB ou CD, on ne sait pas encore. Donc.
D'accord, très bien. Donc on pourra peut-être le diffuser, vous pourrez peut-être le
oui.
diffuser à,
et toute
un petit
façon,
peu en dehors du lycée.
De toute façon, même l'année prochaine, en fait, il sera utilisé pour les prochaines classes d'histoire des arts.
D'accord.
Donc voilà.
Ok, très bien. Ben, merci. Merci Adèle pour les questions.
Merci.
On continue avec quoi, Sarah ? Tu peux nous dire ?
On continue avec des élèves qui sont venus déguisés pour le carnaval et on en parle avec encore Adèle.
Voilà. On envoie un petit jingle et puis on reçoit nos nouveaux invités en plateau.
Radio Flac, l'art fait par les lycéens et pour les lycéens. En direct du lycée de Seigne. Sur Studio Zef.
Changement de plateau express pour nos trois nouveaux invités. Donc trois jeunes filles qui sont venues déguisées au lycée aujourd'hui à l'occasion du carnaval. Alors déjà, bonjour à vous.
Bonjour.
Et donc Adèle a quelques petites questions à vous poser.
Eh bien, vous êtes trois filles du lycée de Seigne. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Je m'appelle Marie Mazon, je suis en première S5.
Je m'appelle Candice Ronsin et je suis aussi en première S5.
Et moi, Sarah Lecomte, en première S5 aussi.
D'accord. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous êtes déguisée et vous décrire sur votre déguisement ?
Alors, je suis déguisée en bateau.
Alors, du coup, c'est-à-dire ? Parce que vois un bateau, mais un déguisement de bateau, c'est plus compliqué.
Ben, j'ai un bout de carton autour de moi en forme de bateau. Et
d'accord.
Du coup, ça fait un bateau. Ah, j'ai des épaulettes et une casquette aussi.
Voilà.
Voilà.
D'accord.
Moi, je suis déguisée en Cars. Du coup, j'ai un carton autour de moi qu'on a peint en rouge, logique. Puis on a fait les yeux, les phares, tout ça.
Et moi, je suis un avion. Et donc, pareil, autour de moi, accroché à mes épaules, il est vert. Et j'ai la casquette et les épaulettes aussi.
D'accord.
Ok. Et d'où vous êtes venue cette idée de vous déguiser comme ça et pourquoi ce choix ?
Alors déjà, de base, on n'avait pas trop d'idées. Ensuite, on était parti sur des Legos. En fait, on voulait des déguisements que vous pouvez faire nous-mêmes. Et des Legos, Marie nous a proposé les transports, on va savoir pourquoi. Marie, d'où t'es venue cette idée ?
Je sais pas, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ça sur Internet. Du coup, ça avait l'air cool. C'était original. Puis on pensait que personne n'aurait les mêmes, donc on a fait ça.
Ok.
C'est le cas, c'est assez original. Et pour le fabriquer, comment vous avez fait ? Avec quoi ? Quel matériau ?
On s'est rejoint après les cours. Sarah, elle a apporté du carton du déménagement de sa sœur.
On a acheté de la peinture.
On a acheté de la peinture et puis les cutters, tout ça, on a coupé.
Donc tout est fait maison sur les costumes ?
Ouais.
Même les épaulettes ?
Non.
Mais ça, c'est que des choses qu'on avait déjà...
Chez nous.
Voilà.
On n'a pas racheté de matériel.
Oui, l'objectif, c'est que ce soit le coût zéro pour le carnaval.
Voilà,
soit original, mais pas cher.
Voilà, il y a juste la peinture qu'on a dû acheter. Mais bon, logique, on ne peut pas non plus tout faire nous-mêmes. Mais voilà.
D'accord. Et je suppose que le fait que vous soyez ensemble, c'était réfléchi, le côté collectif.
Oui.
On en a vu plusieurs au lycée aujourd'hui, des gens qui viennent à plusieurs. Est-ce que c'est plus facile comme ça de se déguiser quand on est plusieurs ? Vous l'auriez fait par exemple, t'aurais fait sur ton déguisement de bateau si t'étais toute seule ?
Non, parce qu'en fait, on assume mieux à plusieurs. C'est plus simple.
Déjà,
il y a tous les regards et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est déguisé quand même. Enfin, c'est pas...
Ouais.
Donc, on avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui se déguise. Et le faire à plusieurs, ça donne du courage, quoi.
Notre déguisement, c'est pas un truc... C'est un truc facile à se moquer. En plus, du coup, le fait d'être toutes les trois... Même si c'est dur quand même à trois, hein, ça aide quoi.
En tout cas, vous avez le courage de porter le déguisement et de venir en parler à la radio. Donc c'est que vous assumez en tout cas ce que vous avez fait. Vous avez une autre question à poser sur les costumes, Adèle ?
Non, on arrive à la fin.
On arrive à la fin, d'accord. Bon, Jissi, moi une petite question. Est-ce que vous êtes inscrit au concours de déguisement ?
Oui.
D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu aux auditeurs en quoi ça consiste ce concours ?
Alors il y a un concours de déguisement qui est organisé dans le lycée. Et du coup, chaque personne qui s'inscrit à ce concours va devoir défiler sur une scène dans la cour. Et à la fin de ces défilés, il y a un jury qui choisira lequel il préfère sous différents critères. L'imagination qui est sur 10 points, la prestation qui est sur 5 ou 10 aussi, je crois.
Le temps.
Le temps de préparation.
D'accord.
Et aussi leur coup de cœur. Donc et en fonction de la personne qui aura le plus, enfin la personne ou les groupes, parce qu'il y a des groupes comme il y a des personnes individuelles qui se présenteront, gagneront. Alors les groupes c'est des bonbons, mais les personnes individuelles ils gagnent des prix, des cartes cadeaux pour l'espace culturel de Leclerc. Du coup,
donc ça me donne envie de participer quelque part.
Ouais, nous on gagnera des bonbons, mais c'est pas grave.
C'est pour le fun.
Voilà.
Ça marche. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Nous parler de vos costumes. On vous laisse repartir donc en avion, en bateau et en voiture.
Hein,
pas trop vite. Et vous allez participer au défilé du coup, je suppose aussi.
Oui.
Ouais. Bon défilé. Alors tout à l'heure dans le lycée.
Merci.
L'avantage, je peux vous dire, là où vous êtes, vous pouvez vous rassurer, c'est que vous sortez pas du lycée. C'est-à-dire que au moins vous n'allez pas défiler dans la rue.
On est quand même sortis dans la rue tout à l'heure.
C'est vrai.
En plein milieu de la route, on a fait une petite prestation.
D'accord.
Avec un policier qui me faisait traverser une route.
Ah.
C'est sympa.
Ok. Ça fait. Bon, du coup, Sarah, qu'est-ce qui se passe pour la suite ?
Alors maintenant, on continue avec une nouvelle de Maupassant, lue par Jade, Simon, Stéphane et Delphine, et elle s'appelle Le papa de Simon.
Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit. Et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupes et se mirent à chuchoter. C'est que, ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leur famille, et quoi qu'on lui fît bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu méprisante qui avait gagné les enfants sans qu'ils sussent du tout pourquoi. Quant à Simon, ils ne le connaissaient pas, car il ne sortait jamais, et il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère, et c'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'ils avaient accueilli et qu'ils s'étaient répété l'un à l'autre cette parole, dite par un gars de 14 ou 15 ans, qui paraissait en savoir long, tant il clignait finement des yeux.
Vous savez, Simon, eh ben, il a pas de papa.
Le fils de la Blanchotte parut à son tour sur le seuil de l'école. Il avait 7 ou 8 ans. Il était un peu pâlot, très propre, avec l'air timide, presque gauche. Il s'en retournait chez sa mère quand les groupes de ses camarades, chuchotant toujours et le regardant avec les yeux malins et cruels des enfants qui méditent un mauvais coup, l'entourèrent peu à peu et finirent par l'enfermer tout à fait. Il restait là, planté au milieu d'eux, surpris et embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté la nouvelle, enorgueilli du succès obtenu déjà, lui demanda.
« Comment t'appelles-tu, toi ?»«
Simon. » »«
Simon quoi ?»«
Simon ?»«
On s'appelle Simon quelque chose. C'est pas un nom, ça, Simon. »«
Je m'appelle Simon. »
Les galopins se mirent à rire. Le gars triomphant éleva la voix.
« Vous voyez bien qu'il a pas de papa ?»
Un grand silence se fit. Les enfants étaient stupéfaits par cette chose extraordinaire, impossible, monstrueuse. Un garçon qui n'a pas de papa. Ils le regardaient comme un phénomène, un être hors de la nature, et ils sentaient grandir en eux ce mépris inexpliqué jusque-là, de leur mère pour la Blanchotte. Quant à Simon, il s'était appuyé contre un arbre pour ne pas tomber, et il restait comme atterré par un désastre irréparable. Il cherchait à s'expliquer, mais il ne pouvait rien trouver pour leur répondre et démentir cette chose affreuse qu'il n'avait pas de papa. Enfin, livide, il leur cria à tout hasard.
« Si j'en ai un !»«
Où est-il ?»
Simon se tut, il ne savait pas. Les enfants riaient, très excités. Et ses fils des champs, pour proches des bêtes, éprouvaient ce besoin cruel qui pousse les poules d'une basse-cour à achever l'une d'entre elles aussitôt qu'elle est blessée. Simon avisa, tout à coup, un petit voisin, le fils d'une veuve, qu'il avait toujours vu comme lui-même, tout seul avec sa mère.
« Et toi non plus, tu n'as pas de papa ?»«
Si, j'en ai un. »«
Où est-il ?»
Il est mort. Il est au cimetière, mon papa. »
Un murmure d'approbation courut parmi les garnements, comme si ce fait d'avoir son père mort au cimetière eût grandi leurs camarades pour écraser cet autre qui n'en avait point du tout. Et ces polissons, dont les pères étaient pour la plupart méchants, ivrognes, voleurs et durs à leurs femmes, se bousculaient en se serrant de plus en plus, comme si eux, les légitimes, eussent voulu étouffer dans une pression celui qui était hors la loi. L'un, d'un coup, qui se trouvait contre Simon, lui tira la langue d'un air narquois et l'écria.
« Pas de papa, pas de papa !»
Simon le saisit à deux mains, aux cheveux, et se mit à lui cribler les jambes de coups de pied, pendant qu'il le mordait la joue cruellement. Il se fit une bousculade énorme, les deux combattants furent séparés, et Simon se trouva frappé, déchiré, meurtri, roulé par terre, au milieu du cercle des galopins qui applaudissaient. Comme il se relevait, en nettoyant machinalement avec sa main sa petite blouse, toute sale de poussière, quelqu'un lui cria.
« Va le dire à ton papa !»
Alors, il sentit en son cœur un grand écroulement. Ils étaient plus forts que lui. Ils l'avaient battu. Il ne pouvait point leur répondre, car il sentait bien que c'était vrai, qu'il n'avait pas de papa. Plein d'orgueil, il essaya pendant quelques secondes de lutter contre les larmes qui l'étranglaient. Il eut une suffocation, puis sans cri, il se mit à pleurer par grands sanglots qui le secouaient précipitamment. Alors, une joie féroce éclata chez ses ennemis. Et naturellement, ainsi que les sauvages dans leur gaieté terrible, ils se prirent par la main et se mirent à danser en rond autour de lui, en répétant comme un refrain
« Pas de papa, pas de papa !»
Mais Simon, tout à coup, cessa de sangloter. Une rage l'affola. Il y avait des pierres sous ses pieds. Il les ramassa et de toutes ses forces, il les lança contre ses bourreaux. Deux ou trois furent atteints et se sauvèrent en criant. Et il avait l'air tellement formidable qu'une panique eut lieu parmi les autres. Lâche comme l'est toujours la foule devant un homme exaspéré, ils se débandèrent et s'enfuirent. Resté seul, le petit enfant sans père se mit à courir vers les champs, car un souvenir lui était venu qui avait amené dans son esprit une grande révolution. Il voulait se noyer dans la rivière. Il se rappelait en effet que 8 jours auparavant, un pauvre diable qui mendiait sa vie s'était jeté dans l'eau parce qu'il n'avait plus d'argent. Simon était là, lorsqu'on le repêchait. Et le triste bonhomme, qui lui semblait ordinairement lamentable, malpropre et laid, l'avait alors frappé par son air tranquille, avec ses joues pâles, sa longue barbe mouillée et ses yeux ouverts, très calmes. On avait dit alentour, il est mort. Quelqu'un avait ajouté, il est bien heureux maintenant. Et Simon voulait aussi se noyer, parce qu'il n'avait pas de père, comme ce misérable qui n'avait pas d'argent.
Il arriva, tout près de l'eau, et la regarda couler. Quelques poissons flottaient, rapides, dans le courant clair, et, par moments, faisaient un petit bond et happaient des mouches voltigeant à la surface. Il cessa de pleurer pour les voir, car leur manège l'intéressait beaucoup. Mais parfois, comme dans les accalmies d'une tempête, passent tout à coup de grandes rafales de vent qui font craquer les arbres et se perdent à l'horizon. Cette pensée lui revenait avec une douleur aiguë.
Je vais me noyer parce que je n'ai pas de papa.
Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l'herbe. L'eau brillait comme un miroir. Et Simon, avec des minutes de béatitude et cet alanguissement qui suit les larmes, où il lui venait de grandes envies de s'endormir là, sur l'herbe, dans la chaleur. Une petite grenouille verte sauta sous ses pieds. Il essaya de la prendre. Elle lui échappa. Il la poursuivit et la manqua 3 fois de suite. Enfin, il la saisit par l'extrémité de ses pattes de derrière. Il se mit à rire en voyant les efforts que faisait la bête pour s'échapper. Elle se ramassait sur ses grandes jambes, puis, d'une détente brusque, les allongeait subitement, raides comme 2 barres, tandis que, l'œil tout rond, avec son cercle d'or, elle battait l'air de ses pattes de devant qui s'agitaient comme des mains. Cela lui rappela un joujou fait avec d'étroites planchettes de bois clouées en zigzag les unes sur les autres, qui, par un mouvement semblable, conduisait l'exercice de petits soldats piqués dessus. Alors, il pensa à sa maison, puis à sa mère, et pris d'une grande tristesse, il recommença à pleurer. Des frissons lui passaient dans les membres, et il se mit à genoux et récita sa prière comme avant de s'endormir. Mais il ne put l'achever, car des sanglots lui revinrent si pressés, si tumultueux, qu'ils l'envahirent tout entier. Il ne pensait plus, il ne voyait plus rien autour de lui, et il n'était occupé qu'à pleurer. Soudain, une lourde main s'appuya sur son épaule, et une grosse voix lui demanda.
« Qu'est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme ?»
Simon se retourna. Un grand ouvrier, qui avait une barbe et des cheveux noirs tout frisés, le regardait d'un air bon. Il répondit, avec des larmes plein les yeux, et plein la gorge.
Ils m'ont battu parce que je n'ai pas de papa, pas de papa.
Comment ? Mais tout le monde en a un.
Moi je n'en ai pas.
Alors, l'ouvrier devint grave. Il avait reconnu le fils de la Blanchotte. Et, quoique nouveau dans le pays, il savait vaguement son histoire.
Allons, console-toi, mon garçon, et viens-t'en avec moi chez ta maman. On t'en donnera un papa.
Ils se mirent en route. Le grand, tenant le petit par la main, et l'homme souriait de nouveau, car il n'était pas fâché de voir cette Blanchotte, qui était, comptait-on, une des plus belles filles du pays, et il se disait peut-être, au fond de sa pensée, une jeunesse qui avait failli pouvait bien faillir encore. Ils arrivèrent devant une petite maison blanche, très propre.
« C'est là, maman !»
Une femme se montra, et l'ouvrier cessa brusquement de sourire, car il comprit tout de suite qu'on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère sur sa porte, comme pour défendre à un homme le seuil de cette maison où elle avait été déjà trahie par un autre. Intimidé et sa casquette à la main, il babutia.
« Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière. »
Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer.
« Non, maman, j'ai voulu me noyer parce que les autres m'ont battu parce que je n'ai pas de papa. »
Une rougeur cuisante couvrit les joues de la jeune femme et, meurtrie jusqu'au fond de sa chair, elle embrassa son enfant avec violence pendant que les larmes rapides lui collaient sur la figure. L'homme, ému, restait là. Il ne sachait comment repartir. Mais Simon, soudain, courut vers lui et lui dit
« Voulez-vous être mon papa ?»
Un grand silence se fit. La Blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuyait contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'enfant voyait qu'on ne lui répondait point, reprit.
« Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer. »
« Mais oui, je veux bien. »
« Comment est-ce que tu t'appelles, pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom ?»«
Philippe. »
Simon se tut une seconde pour bien faire rentrer ce nom-là dans sa tête. Puis, il tendit les bras, tout consolé, en disant
« Eh bien, Philippe, tu es mon papa. »
L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les 2 joues, puis il s'enfuit très vite à grandes enjambées. Quand l'enfant entra dans l'école, le lendemain, un rire méchant l'accueillit, et à la sortie, Lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ses mots à la tête, comme il l'aurait fait d'une pierre.
Il s'appelle Philippe, mon papa.
Philippe qui ?
Philippe quoi ?
Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ?
Où l'as-tu pris, ton Philippe ?
Simon ne répondit rien, et, inébranlable dans sa foi, il les défiait de l'œil, prêt à se laisser martyriser plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra et il retourna chez sa mère. Pendant 3 mois, le grand ouvrier Philippe passa souvent près de la maison de la Blanchotte et, quelquefois, il s'enhardissait à lui parler lorsqu'il la voyait cousant auprès de sa fenêtre. Elle lui répondait poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui, sans le laisser entrer chez elle. Cependant, un peu fat, comme tous les hommes, il s'imagina qu'elle était souvent plus rouge que de coutume lorsqu'elle causait avec lui. Mais une réputation tombée est si pénible à refaire et demeure toujours si fragile que, malgré la réserve ombrageuse de la Blanchotte, on jasait déjà dans le pays. Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les soirs, la journée finie. Il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades fort dignes, sans leur répondre jamais. Un jour, pourtant, le gars qui l'avait attaqué le premier lui dit
« Tu as menti. Tu n'as pas un papa qui s'appelle Philippe. »
« Pourquoi ça ?»
Le gars se frottait les mains.
« Parce que si tu en avais un, il serait le mari de ta maman. »
Simon se troubla devant la justesse de ce raisonnement. Néanmoins, il répondit.
C'est mon papa tout de même.
Ça se peut bien, mais c'est pas ton papa tout à fait. Le petit à la Blanchotte courba la tête et s'en alla rêver du côté de la forge, au Père Loison, où travaillait Philippe. Cette forge était comme ensevelie sous des arbres. Il y faisait très sombre. Seule, la lueur rouge d'un foyer formidable, éclairé par grands reflets 5 forgerons, aux bras nus qui frappaient de leurs enclumes, avec un terrible fracas. Ils se tenaient debout, enflammés comme des démons, les yeux fixés sur le fer ardent qu'ils torturaient, et leurs lourdes pensées montaient et retombaient avec leurs marteaux. Simon entra sans être vu, et alla tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se retourna. Soudain, le travail s'interrompit, et tous les hommes regardèrent, très attentifs. Alors, au milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix frêle de Simon.
Dis donc, Philippe, le gars à la michaude qui m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait.
Pourquoi ça ?
L'enfant répondit avec toute sa naïveté.
Parce que tu n'es pas le mari de ma maman.
Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains, que supportait le manche de son marteau dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses 4 compagnons le regardaient et, tout petit entre ces géants, Simon anxieux attendait. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe.
C'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte, et vaillante et rangée malgré son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête homme.
Ça, c'est vrai.
Est-ce sa faute à cette fille, si elle a failli ? On lui avait promis mariage. Et j'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui, et qui en a fait tout autant.
Ça, c'est vrai.
C'est qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule, et qu'elle a pleuré depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église. Il n'y a que le bon Dieu qui le sait.
C'est encore vrai.
Alors, on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe, brusquement, se pencha vers Simon.
« Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. »
Puis, il poussa l'enfant dehors par les épaules. Il revint à son travail et, d'un seul coup, les 5 marteaux retombèrent ensemble sur les enclumes. Ils maintirent ainsi le fer jusqu'à la nuit, forts, puissants, joyeux, comme des marteaux satisfaits. Mais de même que le bourdon d'une cathédrale résonne dans les jours de fête au-dessus du tintement des autres cloches, ainsi, le marteau de Philippe, dominant le fracas des autres, s'abattait de seconde en seconde avec un vacarme assourdissant. Et lui, l'œil allumé, forgeait passionnément, debout dans les étincelles. Le ciel était plein d'étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait sa blouse des dimanches, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme se montra sur le seuil et lui dit d'un air peiné.
« C'est mal de venir ainsi la nuit tombée, monsieur Philippe. »
Il voulut répondre, balbutia et resta confus devant elle.
« Vous comprenez bien pourtant qu'il ne faut plus que l'on parle de moi. »
Alors lui, tout à coup.
« Qu'est-ce que ça fait si vous voulez être ma femme ?»
Aucune voix ne lui répondit, mais il crut entendre dans l'ombre de la chambre le bruit d'un corps qui s'affaissait. Il entra bien vite, et Simon, qui était couché dans son lit, distingua le son d'un baiser et quelques mots que sa mère murmurait bien bas. Puis, tout à coup, il se sentit enlevé dans les mains de son ami, et celui-ci, le tenant au bout de ses bras d'Hercule, lui cria.
« Tu leur diras à tes camarades que ton papa, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et qu'il ira tirer les oreilles à tous ceux qui te feront du mal. »
Le lendemain, comme l'école était pleine et que la classe allait commencer, le petit Simon se leva, tout pâle et les lèvres tremblantes.
Mon papa, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal.
Cette fois, personne ne rit plus, car on le connaissait bien ce Philippe Rémy, le forgeron. Et c'était un papa celui-là, dont tout le monde eût été fier.